France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans les 14, 15 et 16 novembre dernier sur le thème « Qui tient promesse ?»
Qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse.
Aujourd'hui, troisième émission, peut-on se passer de la promesse ? Avec deux philosophes, Monique Dixot et Alain Boyer.
Monique Dixot est spécialiste de Nietzsche, mais elle est surtout spécialiste de la pensée grecque, de la pensée antique, de Platon en particulier, auquel elle a consacré de nombreux textes, et notamment plusieurs livres devenus classiques. Je voudrais en citer deux. Le Naturel philosophe, essai sur les dialogues de Platon, qui était paru en 1985 chez Vrin et les Belles Lettres, et puis Platon, le désir de comprendre, plus récemment en 2003 chez Vrin. Alors, dans ces textes, on trouve une écriture, dans les textes de Monique Dixon, on trouve une écriture à la fois extrêmement savante et très alerte, parfois drôle aussi. Je me souviens d'ailleurs d'un texte que vous aviez fait consacré, alors ça c'est dans la presse, consacré à la nouvelle traduction que Badiou a faite de la République de Platon, où vous émettiez quelques réserves un peu narquoises, mais vous étiez plutôt positive dans l'ensemble. Et donc, cette écriture, vous la mobilisez pour explorer la pensée antique, Monique Dixot, et montrer notamment que cette pensée n'est pas une pensée angoissée, obsédée par la question de la finitude humaine, évidemment, cette question de la finitude qui va courir tout au long du forum, s'agissant de l'enjeu de la promesse. Et à partir du moment où, dites-vous, la mort n'est rien, ou pas grand-chose, ou pas vraiment un mal, ou pas à craindre en tout cas, et dès lors que la question que se posent les sagesses antiques n'est pas « quel sens donner à ma vie, mais comment faut-il vivre ?», on se doute bien, Monique Dixot, que l'enjeu de la promesse s'y présente évidemment de façon tout à fait différente.
Merci à vous. Alors, je voudrais parler d'un sens du mot « promesse » que les dictionnaires donnent pour figurer. Assurance ou espérance que semble donner une chose ou un événement, dit le Robert. Chose et événement ne parlent pas. On quitte donc la sphère du promis, ce qui est promis, pour celle de ce qui est prometteur. Les fruits passeront les promesses des fleurs, la beauté est une promesse de bonheur, et chaque révolution promet des lendemains qui chantent. La chose, l'événement, sont en eux-mêmes des promesses, ou plutôt ils semblent l'être, à celui qui projette sur eux une attente ou un espoir. C'est lui qui accroît la chose de sa propre fécondité, lui aussi, qui donne à la promesse un objet, des fruits, du bonheur, des lendemains qui chantent, et c'est encore lui qui décide que cette promesse a été ou n'a pas été tenue, bien qu'il n'en soit pas le destinataire, car cette promesse en soi, pourrait-on dire, s'adresse à tous et à chacun. Dépourvue donc en elle-même de sujet, d'objet, et ne s'adressant à personne en particulier, on n'aurait avec cette sorte de promesse qu'une simple figure de style, métaphore, issue du désir de produire un effet sur l'imagination, donc à reléguer dans le domaine de la littérature ou de la rhétorique. Et de fait, les philosophes qui ont plutôt traité de la promesse en ont traité comme d'une espèce, presque tous, en ont plutôt traité comme une espèce de contrat à la frontière du moral, du juridique et du politique, comme une sorte d'action différée transférée à un futur qui en sanctionnera la valeur. Or, dès qu'on lui donne un objet, la promesse métaphorique, la mienne si j'ose dire, s'inscrit elle aussi dans ce temps où l'avenir succède au présent, les fruits succèdent aux fleurs, le bonheur à la beauté, les lendemains qui chantent et déchantent aux révolutions. Que serait pourtant une promesse qui ne promettrait rien ? À moins que, par-delà l'antinomie, la contradiction, si vous voulez, l'alternative, disons, du promettre quelque chose ou ne rien promettre du tout, on entende dans la promesse un appel à accomplir. Et cela, je l'ai entendu dans un volume de Proust, un volume de le tome 5 de À la recherche du temps perdu, La prisonnière. Le narrateur, que tout au long de cette recherche, qu'avait obsédé la petite phrase de la sonate de Vinteuil, écoute une œuvre posthume de ce compositeur, un septuor, et il y entend, je cite, l'accomplissement de l'étrange promesse qu'il avait perçue dans la sonate. Leurs interrogations, dit-il, sont dissemblables. Dans le Septuor, les phrases interrogatives se font plus pressantes, plus inquiètes, les réponses plus mystérieuses. Mais ces deux œuvres sont des fragments d'un univers insoupçonné. Voici ce qu'il a entendu dans cette musique. Alors, c'est une phrase de Proust que j'ai un peu élaguée, mais comme toutes les phrases de Proust, elle est proustienne, hein, particulièrement. « Et moi pour qui, elle, donc cette musique, avait été aussi, elle venait d'être ce soir même encore. Elle devait, surtout dans l'avenir, être cause de tant de souffrances. C'était grâce à elle, par compensation, qu'avait pu venir jusqu'à moi l'étrange appel que je ne cesserai plus jamais d'entendre, comme la promesse et la preuve qu'il existait autre chose, réalisable par l'art sans doute. Autre chose donc que le néant que j'avais trouvé dans tous les plaisirs et dans l'amour même. Et que si ma vie me semblait si vaine, du moins n'avait-elle pas tout accompli. » Dans l'entortillement de cette phrase, les temps des verbes se mélangent. On va d'un passé lointain, avait été, etc., ou proche, venait d'être, puis un avenir, devait à l'avenir être, je ne cesserai plus jamais, puis il y a le présent, mais un présent mis à l'imparfait, qu'il existait autre chose, ma vie qui me semblait si vaine. À l'imparfait, puisque ces présents sont pour celui qui écrit des moments qu'il a dépassés. Dans l'expression finale, ma vie me semblait si vaine, du moins n'avait-elle pas tout accompli, les temps, présent, passé, avenir, se rabattent les uns sur les autres, car ce tout, que la vie du narrateur n'avait pas accompli, elle ne l'a toujours pas accompli, bien qu'elle soit en train de le faire, et ne cessera plus jamais de le faire. Plus jamais, tant qu'il vivra. Ces temps sont ramassés dans un présent, conscient, désormais du néant des plaisirs de la vie, et questionné par la promesse qu'il existe autre chose. Promesse qui n'appelle à rien d'autre qu'à prouver cette existence. Car répondre à cet appel, ou accomplir la promesse, ne consiste qu'à les faire entendre et transmettre à son tour. L'avenir, en ce cas, n'est plus une dimension temporelle, mais celle d'une existence qui étant l'existence d'autre chose, l'art pour Proust, est une autre manière d'exister. Elle est propre à la fois à la chose dont la fécondité est inépuisable, et à celui qui ne peut en prouver l'existence que grâce à une écriture et une pensée qui, comme vous venez de l'entendre, court en avant en arrière d'elle-même, en découvrant toujours plus qu'elle n'en savait et toujours moins qu'elle ne l'espérait. Car c'est une interrogation, et c'est ce qui m'a frappé dans cette phrase de Proust qui introduit l'interrogation dans la promesse. C'est une interrogation qu'elle doit faire entendre, à travers des réponses qui ne cherchent pas à supprimer la question, mais à la faire, au contraire, ou à la rendre toujours plus insistante. Pour le narrateur, donc, c'est l'art, l'œuvre à venir, qui ouvre un avenir en lequel il voit la seule valeur possible de sa vie et de la vie. Passer par ce texte était me permettre de passer à deux philosophes qui annoncent, espèrent, interrogent cette autre chose qu'est pour eux la philosophie, et en lesquels, à mon avis, la philosophie se fait aussi interrogation, promesse et appel. Platon et Nietzsche, donc, par obsession personnelle, sans aucun doute, mais aussi parce que avec l'un, Platon, la philosophie commence. Il lui donne un nom encore incertain, de lui-même, forge son langage et construit son sujet, le philosophe, qui n'arrive que dans le Phédon. Et parce que l'autre, Nietzsche, veut la commencer à nouveau, libérer la philosophie d'une morale qui, selon lui, a été le but ultime, avoué, inavoué, de toutes les philosophies passées, la libérer en lançant des points d'interrogation, et ce qu'il appelle de dangereux peut-être. Je vais donc passer à deux philosophies, très rapidement, à deux philosophies dont la modalité est interrogative. S'agissant de celle de Platon, disons que sa dimension socratique peut difficilement être mise en doute, encore qu'elle l'a été, le sera, elle est. Bon, enfin, difficilement quand même. Pour celle de Nietzsche, c'est moins évident. Alors je citerai trop rapidement, simplement ceci. Par-delà, oui et non, interrogation et point d'interrogation, au pluriel, pour Jean, digne d'interrogation. Comment il conçoit sa philosophie. À quoi j'ajouterai, pour le plaisir, parce que ça m'amuse toujours, qu'il y a dans les œuvres publiées 665, je les ai comptées, 665 occurrences du terme « peut-être ». Vielleicht. Bon. Peut-être, hein, ça modalise, enfin, ça restreint considérablement les oui et les non. Hein. Bon. Chacun d'eux, donc, Platon et Nietzsche, donne en conséquence à sa philosophie la liberté totale de découvrir, explorer, essayer les termes justes et la juste perspective permettant de bien poser ou reposer un problème. Mais la souveraine liberté de ce que Platon nomme la science des hommes libres, la dialectique, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le Sophiste, ou de l'expérimentation qui pour Nietzsche est le propre des esprits libres, cette liberté rencontre pour eux dans la vie une limite. Car si penser signifie ne pas cesser d'apprendre, de réapprendre ce que penser signifie, sans jamais réussir à le savoir, s'ils doivent toujours se prouver à eux-mêmes l'existence de cette autre chose, la philosophie, en devenant plus inventif, comme dit Platon dans le Politique, plus créateur, comme dit Nietzsche, de quelle vie une telle philosophie peut-elle être le principe? Pour essayer de me faire comprendre, au début de la recherche de l'entendement, Spinoza écrit « m'étant aperçu que les occupations ordinaires de la vie étaient vaines et futiles ». Bon, la question est réglée. Les occupations ordinaires, on s'en est débarrassé, elles ne viendront plus troubler un entendement réformé, encore moins mettre en question une sagesse fondée totalement en raison. Or justement, c'est ce risque-là qui n'est définitivement écarté ni chez Platon, ni chez Nietzsche. Le premier, Platon, admet dans le Phédon que sa vie en philosophie, et pour la plupart des hommes, et probablement à un certain moment pour le philosophe lui-même, une assez bonne image de la mort, puisqu'elle renonce à une quantité de plaisir, de passion, etc. Nietzsche déclare « Je suis en revanche bien disposé envers les morales, dit Nietzsche, qui m'incitent à faire quelque chose, à le refaire et ce du matin au soir, et à en rêver la nuit, et à ne penser à rien d'autre qu'à le faire bien, aussi bien que moi seul, justement, je le peux. Qui vit de la sorte, voit tomber continuellement, l'une après l'autre, les choses qui n'appartiennent pas à une telle vie. » Deux morales qui prescrivent cela, à ma connaissance en tout cas, et il n'y en a pas. C'est un impératif platonicien que Nietzsche écrit. L'impératif qui commande pratiquement toute l'organisation de la République, c'est-à-dire à chacun sa tâche, hein, son organe propre, sa tâche propre. Chaque homme ne doit s'occuper que de ce qu'il peut faire, je cite, « seul ou mieux que tout autre », que ce soit des chaussures, de la musique, des mathématiques ou du pain. À moins d'être un simple rouage interchangeable. La question « comment faut-il vivre ?» n'appelle donc pas chez eux une réponse morale, mais bien une réponse politique, mais pas la réponse d'une petite politique, mais de ce qu'ils appellent tous les deux d'ailleurs une grande politique. La vie passée dans la philosophie, c'est celle que Socrate oppose à Calliclès, qui lui enjoint de vivre, de s'occuper, en s'occupant d'affaires qui soient des affaires d'hommes, affaires de la politique, je cite toujours, hein, c'est dans le Gorgias, comme on la pratique aujourd'hui. Celle que Nietzsche s'exerce à vivre en altitude, dans les glaces, dit-il, laisse au-dessous de soi le pitoyable bavardage actuel fait de politique et d'égoïsme des peuples. On pourrait peut-être mettre ça dans le journal, tous les jours, non? Bon. On peut concevoir les philosophes, dit Nietzsche, comme des gens qui font l'effort le plus apparent pour expérimenter jusqu'où l'homme peut s'élever. Surtout Platon. Jusqu'où s'étend sa force. Fin de citation. Platon est en ce sens le seul philosophe passé auquel s'appliquerait cette définition des philosophes à venir, parce qu'il a été législateur et a prescrit aux philosophes de l'être, non pour gouverner les hommes, mais pour, en les éduquant et les gouverner, transformer l'homme. Mais désormais, si on veut le faire pousser plus haut, il faut, selon Nietzsche, délivrer l'homme de sa mauvaise conscience et de la honte d'être homme. C'est cette bonne conscience à venir qui donnera à l'homme un avenir. Le philosophe est donc pour eux l'acteur indispensable de l'histoire des hommes. Mais, demande Nietzsche, y a-t-il aujourd'hui de tels philosophes ? Y eut-il déjà de tels philosophes ? Ne faut-il pas qu'il y ait de tels philosophes ? Pour tous deux, il faut qu'il y en ait, car l'existence de leur grande politique est suspendue à celle de philosophes tels qu'ils les conçoivent. En quoi ces philosophes à venir différeront-ils d'eux-mêmes, c'est-à-dire de ceux qui les annoncent ? Ils seront à la fois critiques, qui détruiront les valeurs d'une culture qui, selon eux, n'en est pas une, mais ils doivent déterminer en détail le vers où aller, comment et pourquoi, autrement dit, qu'est-ce qu'on attend de l'homme ? Et où va-t-il ? Et où veut-on le faire aller ? Les philosophes à venir sont donc semblables à eux, tels qu'ils les conçoivent, mais ils sont les instruments nécessaires à l'application de leur politique, qu'on peut dire expérimentale. Or, qu'il en advienne des philosophes, cela, ils ne peuvent pas le promettre. Car pour eux, ce n'est pas leur philosophie, ni la philosophie qui peut engendrer un philosophe, elle peut aider, mais elle ne suffit pas. C'est pour Platon la nature, pour Nietzsche la vie, et elles sont gouvernées toutes deux par un hasard qui est la forme la plus incompréhensible de la nécessité. Mais si on consent à les entendre, eux, ils sont eux-mêmes la promesse de philosophes tels qu'ils les annoncent, car annoncer n'est pas prédire, mais justement faire entendre un appel, courir un risque. Je vais juste citer le dernier texte, probablement écrit par Platon, en conclusion des lois. « Voilà, mes amis, dit-il, l'enjeu qui, semble-t-il, est mis pour nous sur la table. Si nous acceptons de risquer le sort de notre constitution tout entière en jetant les dés qui peuvent amener 3 × 6, ou 3 × 1, bon, faisons-le. » Son œuvre entière, donc, lui apparaît comme un coup de dés qui peut tout gagner, tout perdre. Or, ne pas les entendre, c'est-à-dire faire qu'ils perdent, c'est laisser aller tout régime politique vers la tyrannie violente ou subtile, comme dit Platon, celle de l'argent, d'ailleurs, c'est très étonnant, ce texte, livre 8 de la République. Tyrannie qui est, selon Platon, l'envers de toute constitution politique, sauf la sienne, bien sûr. Ou vers la forme passive d'un nihilisme croissant que le désert croit, que Nietzsche diagnostique. Alors pourquoi faut-il ce grand détour d'une grande politique pour empêcher la vie humaine de s'y précipiter ? Parce que, adhérente à elle-même, uniquement préoccupée d'elle-même, elle est, dit Platon, soumise à la royauté du plaisir et de la souffrance. Elle a pour unique projet de se conserver, pour seul idéal de jouir d'elle-même. Elle est dominée par une aversion insurmontable envers la souffrance et la mort. Or, selon lui, cela fait des hommes des images inconsistantes, avides de plaisir, le néant de la vie et des plaisirs dont parlait Proust, avides de plaisir qui ne remplissent jamais le vide, ce qui revient à remplir un tonneau percé avec une passoire, l'image du Gorgias. Les derniers hommes, décrits par Zarathoustra, ont quitté les régions où la vie était dure, ils réclament leur petit plaisir pour le jour, leur petit plaisir pour la nuit, et un peu de drogue, car cela fait des rêves agréables. Or, dans ce refus de supporter et de s'infliger toute forme de souffrance, d'effort, bon, la vie se nie elle-même. Contradiction, opposition, sont signes d'une santé, d'une force de vie, qui ne craint pas, mais désire affronter des obstacles, seul moyen d'aller un peu plus loin que ce dont on se croyait capable. Il est pourtant impossible de nier la force du plaisir et de la douleur et offrir à la vie un autre horizon que leur monotone alternance, s'achevant sur un anéantissement. N'est-ce pas proposer un mythe venant remplir la place vide laissée par ceux des croyances religieuses ? Non, pour deux raisons. Parce que si mythe il y a, il ne demande pas à être cru, parce qu'il n'est pas consolant. En grec, je ne vais pas parler grec, bien que pour moi le grec soit la langue de la philosophie. Là, je vais m'abstenir. promettre n'a que son sens propre, promettre quelque chose. Et pour dire la promesse dont je parle, la langue grecque dit donner ou fournir des espoirs. Espoir est un leitmotiv d'un dialogue de Platon, le Philebe, où le plaisir apparaît comme étant l'espoir de lui-même. Il est ce que la vie tient pour son bien. Socrate s'emploie en sonder la fêlure, il distingue les vrais plaisirs, les faux plaisirs, les plaisirs purs, les plaisirs mélangés, etc. Car, dit-il, dans la tragédie et la comédie tout entière de la vie, des peines se mélangent simultanément à des plaisirs dans des milliers d'occasions. Socrate réussit pourtant, péniblement, à composer le breuvage d'une vie bonne à vivre, en y déversant toutes les formes de conscience et de savoir et de technique, puis en ajoutant les plaisirs nécessaires, les plaisirs purs, ce prix au beau son, aux belles couleurs, etc. Mais il n'y verse pas la vérité. Plutarque dit alors à Socrate, pour terminer, que tout ce qu'il a dit est on ne peut plus vrai. Mais ces derniers mots sont « Il reste encore une petite chose, Socrate. » Quelle est cette petite chose, smikronti, qui empêche la vie bonne d'être vraie? Qu'est-ce qui, dans la vie, fait obstacle à la vérité? Qu'est-ce qui a empêché la dialectique de Socrate d'aller jusqu'au bout? Ce reste, sur lequel elle a buté, c'est la nature illimitée, sans fond du plaisir. Il est de la vie une profondeur, un éclat, que la pensée est impuissante à récupérer. La menace persiste, et de même que le bruit reste la chute toujours possible de la musique, le borboring, celle du langage, la pensée peut toujours sombrer dans l'ivresse de la vie. Telle est la signification bien connue de la fin du banquet, l'irruption des ivrognes. La vie, comme désir, plaisir d'elle-même, est ce résidu que la pensée ne peut que laisser échapper, mais ce qu'elle laisse filer n'a rien de consistant ni d'existant. Il faut en effet arracher à la vie, dit Socrate, son masque d'Aphrodite dorée. Donc, tout le monde affirmera que le contraire de venir à être, c'est être détruit. Nécessairement. C'est donc pour la génération et la destruction que l'on se déciderait en choisissant cela. Si on prend parti pour la vie telle que la plupart des hommes la vivent, on prend aussi parti pour son contraire, qui n'est même pas une mort, parce qu'il faudrait pour cela que la vie soit une vie, mais une corruption, une défaite, décomposition, inéluctable, impossible d'avoir l'un sans l'autre. La promesse de la vie est une imposture, elle promet la décomposition, elle rappelle à son ordre, voue à retomber tout enthousiasme, délire, inspiration. Pourtant, c'est cela aussi vivre, être séduit par le mirage de la vie. Et c'est ce qu'affirme justement le beau Philebe, il affirme son éternelle promesse. Qu'elle ne puisse jamais être tenue, que le mirage soit décevant, ne suffit pas à les réfuter, et face à lui, la pensée n'a pas le beau rôle. Elle peut au moins ne pas chagriner le plaisir, jolie expression de Platon tout de même, et ne pas se faire morale. Elle ne peut que revendiquer le fait d'être principe d'une meilleure vie. La philosophie n'aurait-elle donc à opposer à la promesse mensongère de la vie que celle tout aussi mensongère d'une vie qui serait à peine une vie? L'autre vie ne promet en effet rien d'autre qu'un effort pour penser chaque fois un peu mieux, un peu plus profond, sans jamais être certain d'y arriver. Car si la nature aime à se cacher, il en va de même de la vérité. Il faut du courage pour la traquer, conjuguer toutes sortes de moyens pour en saisir, sans certitude, un aspect possible. La vérité ne serait-elle pas pour Platon comme pour Nietzsche une femme difficile à séduire? Nietzsche réinterprète en effet cette lutte de la vie et de la pensée comme une contradiction entre une vérité mensongère destinée à conserver la vie et la vérité meurtrière qu'elle dissimule sous ce voile. La vie s'est emprisonnée dans un mensonge qui était nécessaire, qui stabilise, simplifie, organise le chaos du devenir. Mensonge renforcé par les connaissances qui travaillent à prolonger la vie, à la rendre agréable, plus facile, etc. Mais si la vie prend en quelqu'un assez de force, il lui devient possible de se connaître elle-même comme loi du nécessaire dépassement de soi. S'ouvre alors à la connaissance un monde fécond en choses belles, étranges, problématiques, terribles. Cela impose de jouer une vérité contre l'autre, d'affirmer sagement la nécessité, l'utilité de l'erreur pour tout vivant, et de mesurer sa force à la dose de vérité qu'on peut supporter. Celui qui ose regarder la vie humaine en face en dit la vérité. Il dit comme Platon qu'elle n'a pas de vérité, qu'elle ne mérite pas d'être prise au sérieux, mais qu'il soit impossible de ne pas le faire, et que les hommes sont des marionnettes dont le plaisir et la souffrance sont les ficelles tirées par les dieux. Pour Nietzsche, elle est un chaos de forces en lutte, dont la nécessité est implacable et sans but. La vérité parle par ma bouche, dit-il, mais ma vérité est terrible. Elle contraint à être fort. Premier principe, il faut avoir besoin d'être fort, faute de quoi on ne le devient jamais. Comment, toutefois, aimer une telle sagesse et comment aimer une telle vie? On peut aimer du fond du cœur, ni l'une ni l'autre, sans que cela oblige pour autant à devenir un oiseau sinistre. Quand on scrute une vie qui ne tient jamais sa promesse, on l'aime autrement, dit Nietzsche, voilà tout. C'est l'amour pour une femme qui vous inspire des doutes. La vie répond à Zarathustra, et même si nous ne nous aimons pas du fond du cœur, faut-il donc s'en vouloir quand on ne s'aime pas du fond du cœur? C'est cela le tragique. Ne pouvoir ni seulement vivre, ni seulement penser. La vie d'ailleurs se dérobe à ceux qui la poursuivent. Elle n'est aimable qu'à ceux qui la trahissent avec la sagesse. Si quelque jour ta sagesse se sauvait de toi, vite mon amour se sauverait de toi, dit la vie. Car c'est de loin, seulement de loin, que la vie est rieuse, riante, si vous préférez que les fêtes sont joyeuses. Il faut aussi se méfier d'une sagesse qui a toujours tendance, comme la vie, à se prendre pour fin et à devenir une volonté barbare de vérité. Vie et sagesse sont donc deux femmes qui se ressemblent, aussi désirables, fuyantes, dangereuses. Et chacune pose à l'autre une question qu'elle ne peut esquiver. Métamorphoser leur combat en danse, puisque ça s'appelle l'autre champ de la danse, le texte que je viens de paraphraser, ne rend pas ce combat moins tragique, mais cela permet de comprendre que la vérité mensongère de la connaissance est incroyablement inventive et qu'il est possible de ne pas voir dans la vérité mortelle de l'homme, de l'autre, une malédiction, mais la possibilité de tout nouveau commencement. Il faut que quelque chose périsse pour qu'autre chose vienne à être. La pensée dénonce donc l'illusion sinistre d'une vie qui prétend se passer de pensée, mais la pensée elle-même ne peut vivre qu'à la condition de prendre plaisir à penser, et la vie reprend son bien. Chacune ne tient sa promesse qu'à la condition de passer dans l'autre, à la condition que la connaissance soit le seul moyen de gaiement vivre et gaiement rire, et que la vie ait la sagesse de se connaître elle-même. Quand elle évacue d'elle tout enthousiasme, tout gaieté, tout événement, la philosophie devient discursivité, argumentation. Elle risque d'en mourir, je pense en tout cas. Si personne n'est plus animé par le démon Eros, comme Socrate, ou n'est plus le disciple du philosophe Dionysos, dieu de l'ivresse de la vie, comme Nietzsche. La vie a besoin de la philosophie pour cesser d'être désespérante, mais il faudrait alors lui proposer autre chose qu'une sagesse qui s'efforce d'en effacer le tragique et qui la rend au contraire plus lucide, plus sage, plus courageuse, plus capable de le supporter, même de s'en réjouir après tout. La philosophie a désormais besoin de redevenir ivre d'elle-même pour revivre, car une pensée totalement dégrisée se hâte de renvoyer l'interrogation que la vie lui adresse à une morale ou à une religion, à moins qu'elle n'y soit simplement devenue sourde. Inutile d'ajouter que ce futur-là a toutes les allures de notre présent et que mes deux philosophes ne l'avaient pas promis, mais prévu.
Merci. Merci beaucoup Monique Dixot. Vraiment, on a eu un exercice de haute voltige. Vous avez rappelé cette définition de la dialectique comme la science des hommes libres, c'est ça. Là, on a eu un très très bel exercice de dialectique comme science d'une femme libre. Nous allons passer maintenant la parole à Alain Boyer. Bonjour Alain Boyer.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie morale. Je voudrais dire un mot quand même sur le, faire allusion à nouveau à la leçon inaugurale de Jean-Luc Nancy. À un moment donné, lors de la discussion avec la salle, avec le public, il y a eu une discussion sur la politique et ce que Jean-Luc Nancy a appelé la militance. Il a dit à une certaine époque, notamment en 68, au moment de mai 68, il y avait une forme de militance propre à une certaine gauche qui sacrifiait le présent au profit de l'avenir et il fallait en permanence être tendu vers le futur de l'émancipation, le futur de l'histoire, le futur du socialisme, de la justice. Et on avait tendance à sacrifier le présent. Vous-même, Alain Boyer, je voudrais le rappeler quand même, parce que je suis tombé sur une interview très intéressante de vous. Non, mais je voudrais le dire en un mot. Bah, excusez-moi, je le dirai quand même. Que vous avez été proche, il y a longtemps, d'un groupe très important qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, et qui a essayé de développer une conception du socialisme antitotalitaire, critique. Donc voilà, conjuguer les espérances de l'émancipation sans les pulsions du totalitarisme. Et donc vous avez connu cette ambiance de la Sorbonne, où rappeliez-vous, il y avait ce slogan qui a l'air d'une sorte de définition d'Héridienne de la promesse « Soyez réaliste, demandez l'impossible », slogan fameux, et autour duquel on va sans doute tourner tout au long de ce forum d'une manière ou d'une autre. Donc, après cette période, mais je n'en ai pas parlé, vous êtes tourné vers la philosophie, notamment la philosophie morale. Vous avez aussi également donc travaillé sur la pensée grecque et sur des auteurs plus contemporains comme Michel Foucault ou Karl Popper, j'y viens, grand philosophe des sciences, auquel vous avez consacré beaucoup de textes, dont vous avez hérité à la fois une forme d'amour de la vérité et de vigilance à nouveau antitotalitaire et presque libertaire. Et vous avez signé notamment, et c'est ce que je voulais citer en priorité dans votre bibliographie, un livre important qui est paru l'année dernière aux Presses universitaires de France dans cette très belle collection qui s'appelle Léviathan. Et le livre s'intitule « Chose promise, étude sur la promesse à partir de Hobbes et de quelques autres ». C'est un livre où vous commencez par rappeler que la promesse, c'est vraiment une somme sur la question de la promesse, et je vous invite tous et toutes à la lire. Vous partez du fait que la promesse est le propre de l'homme, que l'humain est le seul animal qui engage son futur, qui se lie les mains dans l'avenir ou pour l'avenir, comme vous le dites. Et vous citez d'ailleurs Popper en disant que finalement la promesse, c'est ce qui nous apprend à nous projeter donc dans le futur et ce qui nous apprend à être soi, hein, c'est-à-dire avec cette idée que être un homme ou être une femme, c'est d'abord être un homme ou une femme de parole. Alain Boyer, merci d'être là. Vous avez la parole également pour 20 à 25 minutes.
Merci beaucoup. Mais je ne parlerai pas de Hobbes aujourd'hui parce que ça m'énerverait beaucoup trop loin, sauf en le citant parmi d'autres. Je commencerai par un texte en grec, parce que je partage, sans la science de ma voisine, je partage sa passion pour la langue grecque et son rapport avec la philosophie et la culture en général. Mais c'est justement un texte grec qui n'est pas d'un grec. Enfin, si, d'une certaine manière. Mais c'est quelqu'un dont Alain Badiou a fort bien parlé dans un joli petit livre. C'est donc Saint Paul. Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, 6:13. Et voici ce que dit Saint Paul, je vais vite. « Lorsque Dieu fit la promesse, Evangelia, à Abraham, Genèse 22:16, comme il n'avait personne de plus grand que lui, par qui jurer, Dieu, c'est magnifique, on dirait du Saint Anselme, comme il n'avait personne de plus grand que lui pour jurer, il jura par lui-même et dit, de beaucoup de choses je te comblerai, une immense espérance, une immense expansion, c'est-à-dire descendance, je te donnerai. » Et saint Paul commente, « Ainsi, ayant persévéré, Abraham vit se réaliser la promesse. » Et puis ensuite, dans une phrase étonnante, il va expliquer pourquoi les hommes promettent et pourquoi ils prêtent serment, ils jurent. « Les hommes, en effet, jurent, omniocin, par plus grand qu'eux, et pour mettre un terme à toute contestation, antilogia, recourent à la garantie du serment. » Orcos. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il ne peut y avoir de mensonge de la part de Dieu, adunaton psosastai theon, ces deux actes de Dieu, il a promis, et puis il fait serment, mais sur lui-même, puisqu'il n'y a pas plus grand que lui. Et il nous apporte un encouragement puissant, les deux actes, que sont la promesse et le serment. Donc il faut distinguer promesse et serment. Traditionnellement, et je vous citerai du Homère d'ailleurs, la promesse c'est un acte, disons, qui peut être laïcisé, hein, ou qui n'implique pas du tout le religieux, et le serment habituel, bien que lui-même puisse être laïcisé, c'est compliqué. Le serment dans la tradition antique, que ce soit biblique, grecque ou romaine, c'est une promesse faite avec les dieux, comme dit Homère, « Martyroi kai episkopoi ton harmonion ». Ça, c'est du Homère, garanti. Ça veut dire « témoin et surveillant de nos accords ». Donc un serment, c'est un pacte, c'est assermenté, c'est un échange de promesses avec les dieux comme témoin et garant de nos accords. Alors, ce qui m'a frappé en écrivant ce livre à propos du Nouveau Testament, c'est que il y a ces textes de saint Paul, celui-ci sans doute le plus dense, mais il y a beaucoup d'autres textes où Paul, et puis dans les Actes des Apôtres aussi, promet ou parle de la promesse. Et puis, il y a deux textes extrêmement étranges, radicaux, c'est le christianisme comme utopie radicale, qui ne se trouvent que dans Matthieu 5,32 et dans l'épître de Jacques 5,12. Et là, il est dit, alors c'est une autorité plus forte, normalement, que celle de saint Paul, puisque c'est Jésus, c'est le fameux sermon sur la montagne, la morale chrétienne, on vous a dit, c'est-à-dire Moïse, mais moi je vous dis que. Et là, Matthieu, contrairement à Luc et Marc, ajoute comme opposition supplémentaire, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Huc epior kesseis, tu ne te parjureras pas », c'est dans le Lévitique, Ego delego humin me homosa olos, moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ni par Jérusalem, etc., ni par Dieu, ni par ta tête, ne jurez jamais. Esto de hologos humon ne, ou, perieison tuton ectu poneru esti. C'est-à-dire, je traduis, c'est du grec simple, que votre parole soit un oui. Oui, non, non. Le reste vient du malin. Le texte de Jacques, l'épître de Jacques, que Jean-Jacques Rousseau aimait beaucoup, mais Martin Luther pas du tout parce que c'est anti-paulinien. Enfin bon, je laisse tomber cette question très passionnante. Jacques est supposé nous dire, mais avant tout, mes frères, ne jurez pas par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière, que votre oui soit un oui, votre non un non, to, ne, ne, to, ou, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Là, c'est iname hypocrisine. Mais je préfère une leçon qui est écrite en toute petite en tout petit en bas, comme toutes les leçons différentes dans l'édition en grec. C'est iname is hypocrisine. Je trouve que ça fait plus de sens par rapport au christianisme, c'est-à-dire ne jurez pas pour ne pas tomber sous l'hypocrisie, qui est un péché dénoncé tout le temps dans les évangiles. C'est-à-dire qu'au fond, ce que Jésus et Jacques est supposé nous dire, c'est très subtil, bien sûr, comme d'habitude, c'est pour éviter le grand péché que le parjure, dont Platon dans les lois, quand il parle de Radamante, se plaignait aussi le fait que les gens parjurent. Eh bien, pour éviter le parjure, ne jurez pas. C'est ça le radicalisme utopique. Donc, si vous voulez, c'est l'idée d'une société où il y aurait une immédiateté de la confiance. Je vous demande, est-ce que vous ferez quelque chose? Est-ce que vous viendrez au Mans? Oui. J'ai pas besoin de dire je vous promets. J'ai pas besoin de signer un contrat. J'ai dit oui, je viens. C'est beau, c'est logiquement possible. Un monde, comme dirait Leibniz, un monde sans promesses et sans serment. Sans serment, ça je suis sûr. Mais un monde sans promesses, c'est même logiquement possible. Il faudrait que les gens ne mentent jamais sur leurs intentions, qu'il n'y ait aucune distinction entre la parole et la pensée. Donc, votre oui est un oui, votre non est un non. Entre parenthèses, les seuls protestants que je connaisse qui ont adopté cette version de Nouveau Testament, c'est-à-dire Matthieu et Jacques, et qui ont réussi, ils existent toujours, sont les Quakers, les Anglais et les Américains. Et Voltaire en parle, et il ironise un peu, mais il en parle dans les quatre premières lettres philosophiques des Quakers, les Quakers, comme on dit. Et les Quakers, Fox et ensuite Penn, qui a fondé la Pennsylvania, refusaient de jurer sur la Bible, puisque la Bible contient l'interdiction du serment. Donc on ne peut pas jurer sur un livre. Vous voyez, c'est une contradiction logique. Et alors j'ai fait une petite enquête là-dessus, ça peut vous intéresser, je ne comptais pas le dire parce que ça me prend du temps, mais je trouve ça assez amusant. Et il y a un président des États-Unis qui n'a pas eu de chance d'ailleurs parce qu'il était élu en 1929, donc il s'est retrouvé un fameux jeudi noir en octobre dans une position assez délicate. Mais c'était le président Hoover. Et le président Hoover, qui était une sorte d'humaniste, était un Quaker. Et donc j'ai lu, j'ai fait une petite recherche, mais j'ai pas exactement le texte, mais je sais qu'il a demandé, contrairement à ce que a encore fait Obama il y a pas longtemps, vous savez, devant le Capitole, je jure, le président de la Cour suprême lui demande de jurer sur la Bible qu'il va bien respecter la Constitution des États-Unis d'Amérique. Yes, I swear. Et donc Hoover a demandé au président de la Cour suprême de dire simplement, serez-vous fidèle à la Constitution américaine? Et il a répondu, yes. Son oui est un oui, son non est un non, donc yes. Donc ma thèse, si vous voulez, est la suivante, c'est que c'est beau, c'est une belle idée de pouvoir se passer de promesses, donc ça n'est pas quelque chose d'absolument indispensable à la vie en société, mais je prétends que c'est une utopie. Et que donc, en fin de compte, ce qui a fait que nous sommes des hommes, c'est bien la promesse. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, en fait, nous en passer. Alors, pour ça, j'utilise les trois cultures qui sont à l'origine de la nôtre, comme vous le savez. Donc, la culture biblique, j'en ai parlé, où la promesse est constante. Il n'y a pas une page où il n'y a pas question. La culture grecque et puis la culture romaine. Pour ce qui est de la culture grecque, j'ai cité Homère. Vous pouvez aussi vous référer à l'autre grand texte, non sacré, mais quand même grand texte de la religion grecque, qui est la Théogonie d'Hésiode. Ou Styx, qui est une fille, je ne sais pas pourquoi en français on dit le Styx, mais bon, Styx, fille d'Okeanos, qui aide Zeus dans sa titanomachie, et Zeus lui décerne le nom de Megan Orchonteion, grand serment des dieux. Et donc Styx, rivière des enfers, rivière brûlante, devient le lieu où les parjures seront plongés. Donc juré par le Styx, c'est avoir peur de se retrouver. C'est très important. A contrario, si vous lisez un autre texte très laïque, lui pas du tout religieux, d'un autre grec sublime, ils sont tous, c'est-à-dire Thucydide, dans le livre 3, vous avez un paragraphe, trois pages absolument extraordinaires qu'on devrait enseigner à tout le monde, mais qui sont terribles, sur la guerre civile de Corcyre, en 427 avant Jésus-Christ, qui est Corfou à l'heure actuelle, très belle île, et cette guerre civile, Stasis, Thucydide montre de manière absolument, je vous dis, sublime, que tout ce qui fait la païdéia, la culture et l'éducation des Grecs, tombe en cas de guerre civile. On ne respecte plus rien. Et en particulier, nous dit-il, lorsque des factions sont en guerre, si elles font à un moment un accord assermenté, un serment, un orkos, eh bien, dès qu'une faction considère qu'elle peut reprendre la puissance sur l'autre, eh bien, elle le fait. Donc, les serments n'ont plus aucune valeur. Donc, la guerre civile, qui est la fin de l'amitié civique, comme dirait Aristote, et la discorde absolue, c'est la fin aussi de la croyance dans le respect de la parole donnée. De la même manière, les Grecs sont très très inventifs en question serment. Je vous conseille de trouver sur Internet, vous le trouverez, le serment des Éphèbes, les jeunes gens qui sortaient du service militaire, il est sublime. Ou le serment des Bouleutes, les juges de la démocratie grecque, que Socrate a juré. Et il est très fier dans l'affaire lamentable des Arginus de dire « j'ai juré de ne pas voter, de ne pas juger un homme des hommes contre les lois, et donc je m'oppose à la décision de tuer tous les stratèges ». Donc l'autre serment le plus que vous connaissez tous, celui-là, mais qui est magnifique, qui est grec, même s'il n'est pas sans doute d'Hippocrate, c'est le serment d'Hippocrate. Et donc ce serment d'Hippocrate, c'est quand même magnifique parce que il est, je crois, j'en fais l'hypothèse, c'est un des premiers serments, si vous voulez, qui fonde ce qu'on appelle une déontologie d'une profession. Et il est sublime parce que vous avez un moment, je jure de ne jamais dire ce que j'ai vu dans les maisons. C'est encore le fondement de la notion juridique de secret médical. Donc chez les Romains, c'est encore plus évident. Le deuxième roi mythique de Rome que Jean-Jacques Rousseau adorait, via Plutarque, c'est Numa, un Sabin, très pacifique. Eh bien, Tite-Live nous rapporte, et Plutarque aussi, qu'il avait instauré un temple à Rome à la déesse Fides, une déesse abstraite. Et j'insiste un peu sur ce mot, qui est l'équivalent latin, et d'ailleurs la même origine d'après Benveniste, du grec pistis. Fides a donné en français la foi, au sens de croyance religieuse, mais aussi garder sa foi, en français un peu soutenu. Il a donné aussi fidélité, bien sûr. Il a donné confiance, méfiance, défiance, fiduciaire même. La monnaie a quelque chose à voir avec la confiance. Donc la fides, c'est d'abord la parole donnée, le respect de la parole donnée et la vertu romaine fondamentale liée au respect de la parole donnée. Cicéron cite toujours le cas, et Julie, dans La Nouvelle Héloïse, le donne comme exemple à Saint-Preux. C'est un peu pas très féminin comme exemple, mais bon, c'est du Rousseau. C'est l'exemple de Régulus, fait prisonnier par Hamilcar, le père d'Hannibal, et qui dit à Hamilcar, Hamilcar lui dit, si tu rentres à Rome, dis au sénateur de libérer les Carthaginois prisonniers. Et alors, et si tu fais le serment que si tu échoues, tu reviendras te faire prisonnier. Alors Régulus rentre à Rome, et au lieu de dire ce que lui a demandé Hamilcar, Régulus dit au sénateur romain, surtout ne rendez pas les prisonniers carthaginois, parce que ce sont des bons soldats et ce sont nos ennemis. Mais comme il a juré par Jupiter, protecteur des serments, de revenir chez Hamilcar, il revient, il est torturé et crucifié. Donc c'est exemple magnifique pour Cicéron de vertu romaine. Donc voilà la force de la fides chez les Romains. Et Cicéron, dans un magnifique livre qui est inspiré toute la philosophie, inspiré d'un grec, bien sûr, mais dont on a tout perdu, le stoïcien, méso-stoïcien Panétios, et il le dit, Cicéron, c'est le traité des devoirs, Deophikis. C'est le classique de la morale des anciens, hein, jusqu'à Kant qui le cite encore. Eh bien, dans le traité des devoirs, Cicéron nous dit que les stoïciens ont l'habitude un peu pénible de chercher l'étymologie des mots. Et donc, bon, il dit qu'il sait pas trop, mais il essaye. Il trouve l'étymologie de fides de manière totalement hasardeuse, mais que je trouve magnifique. Il l'a fait venir de l'impératif fiat quod dictum est fides. Bon, c'est complètement hasardeux, mais ça veut dire en latin que soit fait ce qui a été dit. La concision du latin est merveilleuse. Fiat quam dictum est. C'est le titre de mon exposé. Et c'est ça le fondement de la justice. Fundamentum justitiae. Et c'est ça pour Cicéron, le fundamentum societatis. Le fondement de l'association des hommes. C'est le fondement du lien social. Et Cicéron de commenter le proverbe du droit romain, très fameux, c'est pacta sunt servanda. À quoi il ajoute « pacta ac promissa sunt servanda ». Les pactes et les promesses doivent être observés, tenus strictement. Et donc, je me suis avisé du fait, si vous voulez, que ce PSS, comme je l'appelle, le pacta sunt servanda, qui comprenant les promesses, depuis Platon au moins, parce que Platon en discute déjà dans les lois des exceptions à ce principe, fourni par exemple par Euripide dans Iphigénie en Aulis, exemple que reprend Cicéron, sans dire qu'il vient de Platon, mais c'est sûr que ça vient de Platon. Et c'est la prise de conscience, si vous voulez, à partir des anciens. Et mais je trouve qu'avec un épisode que je vous demande de relire dans la Bible, vous trouverez, à mon avis, une même réflexion. C'est l'épisode de la fille de Jephthé. Eh bien, vous trouvez qu'il y a, depuis l'Antiquité, une réflexion sur les exceptions au PSS. Quels sont les cas où on ne doit pas respecter ses promesses? Par exemple, Agamemnon n'aurait pas dû respecter la promesse à Artémis de sacrifier la plus belle créature née sur son territoire, puisque c'est sa fille, Iphigénie. Et donc, je défends quand même le pacta sunt servanda en disant qu'il n'est moralement qu'une règle secondaire. Il ne faut surtout pas considérer que c'est la règle morale essentielle, surtout pas. Mais je défends ce que j'appelle une primauté conceptuelle de la promesse sur les autres règles sociales et morales, parce que mon argument est le suivant, suivre une règle, c'est s'engager à la suivre. Si je vous dis on joue aux échecs et puis que vous voyez que au milieu de la partie, je prends ma tour et lui fais faire une diagonale, vous allez me dire, okay, oui, qu'est-ce que vous faites là? Suivre une règle du jeu, c'est s'engager à la suivre. Donc j'appelle ça, c'est un peu technique, le caractère analytique, bon, je sais pas comment dire, mais conceptuel, de la primauté de l'engagement sur la notion de règle en général, la notion de norme en général. C'est pour ça que la promesse, je l'appelle la mère de toutes les normes. Et je soutiens, grâce à beaucoup de philosophes que je vais vous citer, je soutiens une autre thèse qui est la primauté généalogique au sens de Nietzsche, allusion à la deuxième partie de la généalogie de la morale sur la promesse, magnifique. La primauté généalogique dans la préhistoire, comme dit Nietzsche, dans la préhistoire de l'humanité, qui est, dit-il, bien plus importante pour la formation du caractère de l'homme que l'histoire universelle, c'est contre Hegel. Mais je crois que Nietzsche a raison. Notre préhistoire est ce qui compte pour la formation de notre caractère et de nos règles. Eh bien, je soutiens la primauté généalogique. Ça m'amène à soutenir beaucoup de thèses. La première, c'est le pacta sunt servanda. Donc, quand on regarde l'histoire de la philosophie cette fois, il est défendu par des philosophes. Je vous en fais rapidement une petite liste de ceux que j'analyse dans mon livre. Donc, un étudiant m'a fait remarquer que le sous-titre c'était Hobbes et quelques autres, et j'aurais dû mettre Hobbes et tous les autres. Mais bon, le fait est que je cite comme défenseur du PSS. Des philosophes dont vous allez voir qu'ils ont des conceptions du good, comme on dit en anglais, des conceptions du sens de la vie, du bonheur, de la vie sur Terre, totalement opposées. Donc j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait une intersection commune entre des conceptions du monde totalement opposées. Je cite, vous allez voir, ça fait liste à la Prévert, c'est bizarre. Cicéron, Saint Thomas, Montaigne, Hobbes, Pascal, Locke, Hume, Rousseau, Kant, Nietzsche, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, John Rawls. Or, vous voyez bien, par exemple, que la conception de la morale de Nietzsche et celle de Kant, bon, ça n'a pas la peine de faire un dessin, c'est pas vraiment la même. Ou celle de Pascal et de Hume, ça n'a absolument rien à voir. Mais tous, ils défendent l'idée que la promesse est fondamentale, et que la règle de la promesse est fondamentale. Alors, j'en tire une hypothèse beaucoup plus prétentieuse, ou, si vous êtes moins méchant que je viens de l'être à mon égard, beaucoup plus audacieuse, qui est que la promesse, le pacta sunt servanda, est en fait la mère de toutes les normes, qu'il est présent dans toutes les cultures humaines, toutes, donc mon hypothèse est réfutable, je reste popérien, toutes les cultures, qu'on m'en présente une où il n'y en a pas, je serais obligé de renoncer à l'hypothèse, donc toutes les cultures connaissent la promesse, ou le serment, ou le pacte, enfin les avatars de l'engagement, depuis l'origine de l'humanité, en Afrique, et que seule l'humanité connaît la promesse, donc c'est autre aspect réfutable de l'hypothèse, les animaux n'ont pas l'équivalent dans leur langage de l'engagement pour le lendemain, et que donc ce serait au moins un propre de l'homme, mais je vais plus loin, je dis que c'est une différence spécifique de l'homme, parce que c'est ce qui a permis à l'homme de devenir homme, à l'être humain, disons. L'être humain de devenir homme. Alors, d'où essayais-je de trouver la généalogie de la promesse ? Eh bien, c'est de Jean-Jacques Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, dans le second discours sur l'inégalité, après la sortie de l'état nature, nous explique que quelques hommes se sont retrouvés à vouloir chasser un cerf. Mais ils n'ont que des idées grossières, des engagements. Et donc, il y en a un devant qui un lièvre passe, pouf, alors il saute sur le lièvre. Et les trois autres, on ne sait pas combien ils sont, les autres ne peuvent plus chasser le cerf. Parce que l'un d'entre eux n'a pas respecté son proto-engagement, puisqu'il n'y en a pas vraiment encore, et donc il est tombé dans la tentation du lièvre. En fait, c'est une stratégie dominante, je pourrais vous montrer, de prendre le lièvre. Bon. Et donc, je situe dans la chasse l'origine de la promesse. Pas du tout que j'aime la chasse, ça m'a surpris comme thèse, hein. Mais... C'est aussi le côté popérien, j'ai obligé d'être conséquent avec ces hypothèses. Le changement qui a fait l'homme homme, c'est la carnivorie. C'est ce que dit Pythagore dans le discours végétarien que lui prête Ovide dans les Métamorphoses. Donc la carnivorie, c'est l'imitation des fauves que nous avons faites, nos ancêtres ont faites, en chassant des grands herbivores. Et pour chasser des grands herbivores, étant donné qu'Épiméthée nous avait oublié dans la distribution des outils, on n'a rien, on n'a pas de griffes, on n'a rien. Et donc, si vous voulez... D'après Rousseau, et moi l'interprétant, si j'ose dire, le servant, j'aime bien servir les grands philosophes, c'est le sens de ma vie, si vous voulez. Je dirais, l'échec de la première chasse au cerf de Rousseau a rendu nécessaire l'invention de la promesse solennelle, avec accompagnée par ce que Rousseau appelle des scrupules, c'est-à-dire une sorte de surmoi. Je n'ai pas respecté ma promesse, j'ai attrapé un lièvre. Et donc, aussi des punitions sociales. La honte sociale de ne pas respecter sa promesse. Donc la thèse, si vous voulez, je sais pas si en une minute je peux la donner, ensuite elle passe par Hume, le génial écossais, dans son traité de la nature humaine, livre 3 sur la justice, les trois règles de justice qui sont la propriété privée, le marché et la promesse. J'essaie de renverser les choses en montrant que c'est la promesse qui est d'abord la première convention. Eh bien, Hume nous dit, si on est 1000 pour drainer un marécage, to drain a meadow, c'est un passage magnifique que connaissent les théoriciens des jeux, à ce moment-là, chacun peut se dire, si les 999 autres font le boulot et pas moi, Ben, j'aurai le résultat et je ne me serai pas fatigué. Alors, Rousseau reprend exactement, je pense l'avoir montré, mais je me suis aperçu après que John Rawls l'avait déjà dit dans ses cours. C'est mon problème. Mais donc, je préfère que ça ait déjà été dit par quelqu'un de plus grand que moi, comme dirait Saint Paul, plutôt que ce soit faux. Mais donc, l'idée, c'est que Rousseau a déjà aussi compris ce phénomène qu'on appelle en économie, en sociologie américaine, le free riding. Je traduirais skieur, skiage. Ça veut dire littéralement faire une promenade gratuitement. Je m'arrête en disant que le fondement de la promesse, c'est essentiellement rendre possible des actions collectives non programmées par la nature, qui sont dangereuses et pénibles, comme la chasse, et ensuite la guerre. Je ne suis pas non plus un amateur de guerre. Et cette origine de la coopération dans la chasse et de la promesse dans la volonté d'éviter ou de tenter d'éviter le problème du free riding, il me paraît absolument fondamental. Dernière note. Je me suis aperçu, mais après la rédaction du livre, en relisant le Capital de Marx, qu'il y avait une note où il fait l'éloge d'un philosophe des Lumières qu'il aime beaucoup, mais qui est très peu connu, un Français, qui s'appelait Linguet, théorie des lois civiles. Capital livre 1, chapitre 14 sur la coopération. Donc c'est vraiment notre problème. Et la note dit que Linguet n'a peut-être, c'est Marx en français qui dit ça, Linguet n'a peut-être pas tort quand il explique que la chasse est la première forme de coopération. Et donc, si on suit Rousseau, Linguet et Marx, à ce moment-là, c'est la chasse qui a rendu nécessaire l'invention de la promesse pour maintenir le groupe solidaire. Entre parenthèses, j'ai noté que même Sartre, dans la critique de la raison dialectique, quand il parle de son groupe en fusion révolutionnaire, c'est un peu mythique, bien sûr, eh bien, il le fonde sur un serment, le serment du jeu de paume. Donc, ma thèse, c'est que l'usage, la généalogie de la promesse et du serment en général, c'est la nécessité de faire société pour des entreprises collectives non programmées par la nature, donc que nous avons créées, comme la chasse ou la guerre, malheureusement, mais c'est l'aventure humaine. La promesse, c'est une fille de ce genre de problématique, de problème plutôt, si vous voulez. Mais je veux bien qu'on abandonne la guerre, si on pouvait, et la chasse aussi, et la carnivorie, je veux bien aussi, mais n'abandonnons pas la promesse et la fidesse. Merci. Merci.
C'était le forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui Monique Dixot et Alain Boyer, philosophe. Débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son, Georges Thau. Réalisation, Isabelle Huel. Demain, nous continuerons avec cette question : peut-on se passer de la promesse ? Avec Philippe Corcuff, sociologue.